Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, comme tous les ans, Orthodoxie se joint aux célébrations organisées à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui va du 18 au 25 janvier. Cette année, nous vous proposons deux émissions intitulées « Éthique chrétienne et bioéthique » avec la participation de quatre invités qui, par leur profession et leur engagement, sont tous liés aux questions de bioéthique qui occupent une place de plus en plus importante dans la société actuelle. Je présente donc tour à tour Roselyne de Romanet, qui est infirmière aux soins palliatifs et qui a fait des études de théologie. Sœur Marie-Pierre, diaconesse de Rueilly, chargée de mission éthique et qui a fait une thèse en philosophie sur l'éthique médicale et hospitalière. Jean-Marie Lemenet, qui est président de la Fondation Jérôme Lejeune. Et Marc Andronikoff, qui est médecin, chef du service urgence adulte à l'hôpital Antoine Becler. Donc les questions de bioéthique sont nombreuses, les questions que se posent la société sont nombreuses également, et les questions que pose évidemment l'éthique chrétienne est également un domaine très grand et les réponses ne sont pas toujours faciles. Alors si vous voulez bien, on va commencer par le début, c'est-à-dire le début de la vie. Jean-Marie Lemenet, si vous voulez bien dire quelles sont les questions de bioéthique qui sont liées au début de la vie.
Alors historiquement, je crois que les lois de bioéthique qui ont été mises en place en France il y a maintenant presque 25 ans, la première date de 1994, ont été décidées et votées essentiellement pour trouver un certain nombre de réponses à des questions qui touchaient le début de la vie. Car avant la loi de 1994, on fabriquait déjà des bébés éprouvettes, on faisait déjà de la fécondation in vitro, ça ne s'appelait pas encore de la procréation médicalement assistée, mais ça se faisait déjà. Et les premières lois de bioéthique, car au début elles étaient plusieurs, ont eu pour effet, pour but et pour effet, de légaliser les premières pratiques de fécondation in vitro qui s'étaient déroulées sans cadre légal et réglementaire. Donc évidemment, historiquement, le début de la vie est très impacté par toutes les questions de bioéthique, et c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de fabriquer des embryons en dehors de la fécondation naturelle dans le corps des époux, ou est-ce que on peut rendre l'embryon finalement disponible, ce qui évidemment permet tout un cortège de possibilités, c'est-à-dire de ne trouver que cet embryon qu'on a réalisé in vitro n'est pas tout à fait conforme au souhait qu'on avait formé, qu'il aura peut-être des pathologies, peut-être des prédispositions, pas forcément des maladies, mais un risque d'avoir une maladie à telle époque. Donc est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? Est-ce qu'on le réimplante, est-ce qu'on le réimplante pas? Si on le garde, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le congèle et on le donne à la recherche comme matériau de laboratoire? Ou est-ce qu'on le corrige? Et si on le corrige, dans quel sens? Est-ce qu'on va réimplanter des embryons corrigés? Enfin voilà, je ne fais qu'énumérer au fond un certain nombre de choses, mais il y a déjà la question fondamentale de savoir s'il est légitime. Alors je dis, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il est moral? Là, on voit bien que c'est légal. Maintenant, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est moral? C'est une autre affaire. De fabriquer des embryons, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de fabrication d'embryons in vitro, est-ce qu'on a le droit de les faire, de les défaire, de les refaire, de les parfaire? C'est vraiment la question qui est posée. Et au fur et à mesure des différentes lois de bioéthique qui ont été votées, 94, 2004, 2011, et puis 2013 et 2016, qui ne sont pas des vraies lois de bioéthique, mais il y a eu des modifications, et maintenant 2019, eh bien à chaque fois, les questions liées au début de la vie occupent une grande part des débats sur la bioéthique.
Marc Andronikoff, vous êtes médecin. Est-ce que vous pensez que la médecine, la science médicale, à des limites, déjà techniquement parlant, concernant l'évolution de ce que Jean-Marie Lemenet vient d'énumérer, où ces limites seront repoussées à l'infini?
Écoutez, je pense qu'il faut prendre la question, effectivement, comme vous la posiez, c'est-à-dire du début de la vie, et on voit que Jean-Marie Lemenet vient de parler de ce qui est légal de faire actuellement. C'est légal de le faire parce que le législateur considère que l'embryon n'est pas une personne humaine. Et donc là, on en vient à la limite, puisque vous parliez des limites, de la personne humaine. Et on parlera sûrement des limites de la personne humaine à la fin de sa vie, et là, on parle des limites de la personne humaine au début de la vie. Donc, est-ce qu'on peut assigner une limite avant laquelle un embryon n'est pas une personne humaine, ou, vous avez vu, j'ai fait un lapsus, mais qui est tout à fait révélateur. Et est-ce qu'après cette limite, eh bien, cet embryon est devenu une personne? Donc c'est toute la question et toute la réponse de la société occidentale, disons, technoscientifique, est de dire, eh bien oui, la science ou le législateur se fondant sur des experts ou parce que c'est comme ça que ça se fait, va décider qu'il y a une limite en deçà de laquelle on n'est pas une personne et au-delà de laquelle on sera une personne. Et on verra qu'à la fin de la vie, c'est exactement pareil. Il y a une limite que l'on fixe en deçà de laquelle on reste une personne et au-delà de laquelle on n'est plus une personne pour le législateur. Alors, est-ce que dans une conception chrétienne, on peut déterminer une telle limite? C'est toute la question qui est posée à notre conscience chrétienne, à tous les membres autour de cette table et peut-être à tous les auditeurs qui sont encore chrétiens, c'est est-ce qu'on peut déterminer une telle limite? Donc il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits sur cette question depuis les pères de l'Église, donc ça ne date pas de 5 minutes ou de 94 ou de quoi que ce soit, ça date quand même de l'Antiquité, disons chrétienne, des temps paléo-chrétiens, donc où la conscience chrétienne s'est posée cette question. Pourquoi s'est-elle posée cette question? Parce qu'il existait déjà depuis toujours, l'avortement qui posait déjà cette question. Et donc maintenant, on voit que dans le processus technoscientifique, eh bien, cette question est posée de manière aiguë pour ce qui est possible ou pas de faire, avec comme justification le fait que l'amas de cellules ne soit pas une personne. Donc dans la conception technoscientifique, cette limite dont vous parliez est fluctuante en fonction des données de la science, des avancées techniques et technoscientifiques. Pour une conscience chrétienne, je ne pense pas que cette limite soit fluctuante et je pense que la limite pour le chrétien, c'est la conception. Et ça, je crois que c'est aucun chrétien ne peut ne pas avoir cette limite, que la limite, avant, il n'y a pas et puis il y a la conception. À partir de la conception, il y a déjà une personne qui est là.
Merci beaucoup. Alors, on va passer... Oui, sœur Marie-Pierre, je voulais dire qu'en préparant cette émission, vous m'aviez parlé des cas de bébés mort-nés. Et qu'il y avait donc un accompagnement pour ça. Et évidemment, ça rejoint ce que dit Marc Andronikov, c'est-à-dire qu'à partir de la conception, on a un être humain. Donc, il va naître et en même temps, il est mort.
Oui.
Alors, votre expérience.
J'ai posé cette question-là dans notre maternité au groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon, qui est la fusion de deux hôpitaux, donc l'hôpital des Diaconesses dans le 12e et un hôpital catholique d'origine catholique qui s'appelle la Croix-Saint-Simon. Et donc, dans cette maternité, on a eu effectivement la situation de ce couple dont la maman portait un enfant mort-né. Et les soignants ont souhaité qu'on aborde la question pour essayer de réfléchir aussi sur leurs difficultés au moment de l'accouchement, on peut dire comme ça, de comment est-ce qu'on va accompagner, et leur mal-être aussi de se dire, mais ils étaient très mal. Les soignants eux-mêmes, ils ont avoué qu'ils étaient très mal à prendre ce bébé et à accompagner les parents. Et donc, il y a une réflexion avec une unité de soins palliatifs de néonatologie qui nous a aidés à réfléchir avec les soignants sur comment est-ce qu'on peut accompagner cet être qui est là, quelles sont les traces de vie que la maman va pouvoir garder, que ce couple va pouvoir garder, comment est-ce que cet enfant qui est mort et qu'on considère comme un être qui a eu une vie, une existence, va pouvoir être considéré avec dignité et faire ce qu'on fait en soins palliatifs avec des adultes, c'est-à-dire respecter le corps, honorer et prendre soin de ce corps, même s'il est mort. Voilà.
Roselyne de Romanet, vous êtes spécialiste, enfin vous avez travaillé beaucoup dans des soins palliatifs pour accompagner des gens qui sont en fin de vie, mais est-ce que dans votre expérience, vous avez eu des cas qui étaient liés au début de la vie plutôt qu'à la fin ?
Non, ce sont les personnes qui viennent dans des centres de soins palliatifs sont des personnes qui sont atteintes de maladies graves et pour lesquelles les traitements, a priori, ne pourront plus les guérir. Donc ce sont vraiment des personnes qui peuvent avoir tout âge, parce qu'on tombe malade à tout âge, voire des jeunes hommes, des jeunes femmes comme des personnes plus âgées ou en pleine force de l'âge. Et donc nous sommes vraiment à un moment de la vie de ces personnes qui à chaque fois est essentiel parce qu'à chaque fois il est unique, parce que ce sont des personnes qui avancent avec une perspective de mort plus ou moins prochaine. Et c'est vrai que cette approche de la mort fait un peu l'effet d'une loupe avec un effet grossissant sur les enjeux existentiels, d'où l'importance d'une qualité d'écoute, de présence et de soins auprès de ces personnes qui se posent des questions sur leur existence qui ne se sont peut-être jamais posées ou qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser parce que la vie, elle va avec ses enchaînements, avec son rythme. Et vraiment, au cœur des soins palliatifs, il y a une attention toute particulière au respect, nous parlions de bioéthique, mais tout autant de l'autonomie de la personne qui est absolument à respecter parce que comme le tout petit, elle est infiniment vulnérable. Il y a beaucoup de liens à faire entre le début de la vie et la fin de vie, mais aussi elle est vulnérable. Et comment nous, dans notre mission, joindre cette autonomie et cette vulnérabilité, c'est vraiment ce qu'on appelle la relation accompagnée. Voilà, donc on essaie d'accompagner l'autre dans sa vulnérabilité en le laissant au maximum le choix de ses décisions, aussi difficiles soient-elles, et avec l'ambiguïté que représente la fin de la vie, où parfois on veut quelque chose, puis on ne sait plus bien.
Je crois que c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que les effets de l'accompagnement, de ce qu'on a perçu dans l'accompagnement de soins palliatifs, va, et on le souhaite, avoir des rebondissements dans toute l'approche de la médecine, dans tout le prendre soin, qui n'est pas seulement celui du patient, mais aussi des proches aidants. Je le dis du point de vue de l'enfant, mais aussi du grand âge. Des personnes qui sont dans les EHPAD, dans les maisons de personnes âgées dépendantes, où il y a ce soin qui est cette considération de l'autonomie de la personne, de son consentement à des soins ou pas, et du soin qu'on peut avoir à l'égard des proches aidants qui sont aussi importants.
Merci beaucoup, c'est le moment de la pause musicale, ce sera une prière bien sûr. Alors c'est un témoignage musical du travail de chrétiens venant de confessions différentes. C'est la composition de Nikolaï Kedrov sur Notre Père, dans sa version française. Et c'est un enregistrement qui a été réalisé au studio de l'Opéra de Paris, au studio de Bastille, donc de l'Opéra Bastille. C'est une chorale composée de personnes qui participent au chœur de l'Opéra National de Paris, dirigée par Vadim Artamonov. Il y a des orthodoxes, des catholiques et des protestants qui chantent dedans. Et c'était un très beau moment et un grand merci évidemment à l'Opéra de Paris pour nous avoir donné ce témoignage. Notre Père, donc, de Nikolaï Kedrov, dans sa version française, chanté par les artistes des chœurs de l'Opéra National de Paris, un concert enregistré au studio Bastille le jeudi 22 novembre. Et cette chorale est dirigée par Vadim Artamonov. Nous revenons à notre discussion sur les questions de bioéthique en relation avec l'éthique chrétienne. Jean-Marie Le Ménet, une grande question actuelle, celle du transhumanisme. D'abord, si vous voulez bien définir ce mot qui circule beaucoup, partout on le voit, mais dont on ne comprend pas toujours les contours.
Pour être simple, le transhumanisme, c'est un ensemble d'idéologies qui a un but, c'est celui de faire parvenir l'homme dans une autre espèce, de le faire changer de nature, parce que finalement, nous sommes extrêmement déçus, très désolés de ce qu'est devenu l'homme aujourd'hui, au XXIe siècle. Le XXe siècle n'a pas été spécialement brillant à cet égard. Et on se dit quand même, avec cette convergence des différentes technosciences, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'informatique et les sciences cognitives, NBIC, on devrait pouvoir arriver à vraiment faire de l'homme un homme nouveau, un homme 2.0 qui succéderait à l'homme 1.0, pour utiliser la terminologie que peuvent comprendre les plus jeunes. Alors c'est une ambition qui est assez ridicule en réalité, parce que fabriquer un homme nouveau, on nous a déjà servi ça un certain nombre de fois, ça n'a jamais fonctionné, et surtout trouver une sorte de rédemption dans la technique, parce que c'est finalement ça, c'est racheter un homme imparfait par la science et la technique. Enfin, c'est une parodie, c'est une simagrée du salut, en quelque sorte. Trouver le salut ici et maintenant, le bonheur maintenant, grâce à la science et à la technique. Bon. Alors, ce qui est nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit sur la fabrication d'un homme nouveau, c'est que derrière, il y a le marché. Auparavant, il y avait des idéologies qui, d'ailleurs, pouvaient avoir des aspects collectifs, je dirais. Je ne dis pas charitables ou philanthropiques, mais collectifs. Le communisme, c'est quelque chose de collectif. Dans le nazisme aussi, c'était pas des modèles. Mais là, c'est plus du tout collectif, c'est absolument individuel. Ceux qui auront de l'argent pourront devenir des hommes augmentés, car le but, c'est d'augmenter l'homme, donc. Et puis, bah, les autres, ils resteront des hommes diminués. Donc, on recrée une vieille division entre le surhomme et le sous-homme, ce qui n'a évidemment rien de nouveau. Et derrière, il y a des parts de marché, parce que, naturellement, on va vivre de plus en plus longtemps, ce sera la mort de la mort, et ceux qui pourront s'acheter ces jouvences d'éternité, eh bien, seront évidemment les plus riches. Alors, je dis juste un mot pour terminer là-dessus, et pour justifier finalement peut-être la raison de mon invitation, c'est que nous, à la Fondation Jérôme Lejeune, on s'occupe des hommes diminués. Vous me direz, c'est le rôle de la médecine, parce que tous les hommes sont diminués aux yeux du médecin. Mais là, non, c'est vraiment des diminués de ces diminués, puisque, je dis ça entre guillemets, on s'occupe de ceux qui souffrent d'un retard mental d'origine génétique, en particulier beaucoup de personnes touchées par la trisomie 21. Et on voit bien que dans le projet transhumaniste, il y a, faute d'être capable d'arriver à fabriquer un homme augmenté, déjà la facilité de se débarrasser des hommes diminués. Et ça, aujourd'hui, nous sommes dans un eugénisme d'État. Enfin, c'est pas moi qui le dis, ce sont même ceux qui le font, eux-mêmes qui le disent. Donc, moi, je n'invente rien. Et nous les prenons en charge. On aura une consultation spécialisée pour eux. On finance la recherche en France, elle est financée par nous, pour montrer qu'en fait, ils ont leur place, toute leur place, et qu'il n'y a pas d'homme diminué ou augmenté.
Marc Andronikov, l'avis du médecin sur le transhumanisme, parce que quand même, il y a un bon côté, je dirais. On peut soulager la souffrance, on peut éviter la souffrance, on peut prolonger la vie. Comment peut-on refuser cela à des êtres humains?
Je crois que ce que vient de dire Jean-Marie Le Ménet est très juste. Le problème, c'est d'inventer un nouvel homme qui se débarrasse de toutes les scories de l'homme que nous connaissons. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas marcher pour une conscience chrétienne qui essaie que tous les hommes soient sauvés et pas seulement une petite minorité qui peut s'acheter un exosquelette. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup certains bandes dessinées américaines. Et on voit bien d'où vient toutes ces histoires d'hommes augmentés. Ça vient des surhommes, des comics américains où ils règlent la question avec une nouvelle armure, avec un nouvel exosquelette. Et on règle la question par une réponse technique. Et quand vous regardez le cinéma américain, vous voyez bien que la plupart du, 90% des films, quand il y a une question qui se pose, eh bien, c'est la technique qui va résoudre la question. Et donc, on est baigné là-dedans, et c'est pour ça que les esprits sont prêts à sont baignés dans le sorte de transformisme, de transhumanisme, et on est baigné dedans. Encore une fois, c'est pas tellement le médecin qui parle là, c'est le chrétien qui est fortement surpris.
Moi, je trouve que ça pose vraiment la question de l'accompagnement de la vulnérabilité, l'acceptation de nos vulnérabilités. Comment est-ce qu'on accompagne? Et quand on voit ces situations, on se pose la question pour les aînés aussi. Les questions d'aujourd'hui, ce sont comment est-ce qu'on va continuer d'accompagner nos aînés avec respect, bienveillance, les accompagner dans du soin, alors qu'on sait que les moyens sont réduits. On va développer la technique, mais ces personnes vulnérables, ces petits, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment on soutient les proches aidants pour pas qu'ils craquent dans des situations où il y a des moyens qui manquent? Se pose vraiment la question de l'accompagnement des personnes vulnérables.
Roselyne Dromanet.
Oui, dans ce sens-là, les enjeux de bioéthique sont absolument colossaux. Et c'est vrai que notre société, ça le décrit fortement avec le transhumanisme, est dominée par la technique. Et notre monde ressent de plus en plus un vide spirituel qu'on ne soupçonne pas. Et ce vide spirituel, il est mis en lumière de façon toute particulière à la Maison médicale Jeanne Garnier. Et pour accentuer cette importance de la vulnérabilité et de ce fond commun de vulnérabilité que vivent le patient, mais que vivent les soignants, les bénévoles aussi, les patients n'ont pas besoin auprès d'eux des hommes qui sont des sachants. Ils ont besoin d'êtres qui partagent. Et là, le Christ est un modèle inégalable. Il y a une qualité de regard vis-à-vis de ces personnes qui font qu'on peut avoir des grandes idées, mais il faut avoir des petits gestes. Et si j'ai le temps de vous donner un exemple auprès d'un patient, on m'a confié un patient à aider pour la toilette. Ce patient avait des nodules sur le visage et à la fin de la toilette, il me lance un cri avec son regard. Son regard était vraiment un cri. Je me suis dit, je ne peux pas laisser ce patient qui avait l'air de me dire, mais qui es-tu pour prendre soin de moi qui suis dans une déchéance totale ? Je n'ai pas voulu laisser ce patient ainsi et je lui dis, vous savez, quand je prends soin de vous, je prends autant soin de vous, je vois autant la beauté intérieure de votre être que les nodules. Et vous êtes aussi beau aujourd'hui qu'il y a 3 mois, il n'y avait pas une place. Cet homme a fondu en larmes, m'a dit, c'est extraordinaire. Et finalement, il s'avère qu'il est mort très peu de temps après, mais réconcilié avec le regard que l'on portait sur lui. Des hommes qui ne sont plus regardés ne se regardent plus eux-mêmes. Et un regard suffit, avec l'importance de mettre des mots sur ce qui semble évident. Mais quand on vit l'humiliation de la maladie, rien n'est évident.
Écoutez, ce sera le mot de la fin pour cette première émission. Avant de terminer, juste le titre de votre ouvrage, Roselyne Dromanet, « La mort est une affaire spirituelle » chez Salvatore. Il y a l'ouvrage de Jean-Marie Lemenet, « Les premières victimes du transhumanisme » paru en 2016 aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, puis celui de Marc Andronikov, coécrit avec Jacqueline Dauxois, « Médecin aux urgences » paru en 2005 aux éditions Du Rocher. Donc une deuxième émission sur le même sujet dans 15 jours. Ainsi profane orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Pierrick Charles. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.